RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, les forêts tropicales, comme leur nom l'indique, sont situées de part et d'autre de l'Équateur, en Amérique du Sud, au centre du continent africain et en Asie du Sud-Est. Elles sont parmi les plus anciennes du monde, elles abritent une biodiversité exceptionnelle et elles jouent un rôle important dans la régulation du climat de la planète. Comme chaque année, l'Université du Maryland et le World Resource Institute ont dévoilé leur rapport mondial sur la couverture forestière tropicale. Et comme chaque année, les résultats ne sont pas bons. La déforestation progresse et c'est une mauvaise nouvelle pour nous tous. Heureusement, les scientifiques surveillent et des femmes et des hommes se mobilisent pour enrayer cette destruction. Nos invités sont de ceux-là.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Chani.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'ONG Kalawet. Vous vous battez depuis près de 30 ans pour la sauvegarde de la biodiversité en Indonésie, plus précisément à Sumatra et à Bornéo. Alors votre motivation au départ, c'était de sauver les gibbons, ces singes qui vous passionnent depuis l'adolescence. Et depuis quelque temps, vous avez évolué vers la protection de l'écosystème dans lequel ils vivent. Ce sont justement les forêts tropicales.
Justement les forêts tropicales. Sauver les animaux lorsqu'ils sont encore dans les arbres. Puisque c'est extrêmement compliqué de les réhabiliter, de les relâcher dans la nature. Et face à une déforestation qui progresse, il faut être pragmatique. Et donc essayer de les sauver dans ces poches de forêt. Parce qu'on parle de poches de forêt, on ne parle pas de grandes forêts comme on peut l'imaginer, cernées par les industries de l'huile de palme ou du charbon. Donc oui, sauver les forêts avec tous les animaux à l'intérieur.
Vous allez nous expliquer tout cela. Bonjour Thomas Couvreur.
Bonjour.
Vous êtes botaniste à l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Vous êtes en duplex avec nous depuis Montpellier, grâce aux équipes de France Bleu Hérault, que je remercie au passage. Alors, vous m'expliquiez en préparant cette émission que quelle que soit la zone de forêt tropicale que l'on observe, c'est le même terme que Chani vient d'employer, nous sommes dans la salle des urgences.
Oui, j'aime bien présenter un peu les forêts comme toutes les forêts tropicales du monde sont dans la salle d'urgence, dans un hôpital. Et il va falloir les traiter, il va falloir les sauver. Mais bien sûr, ces urgences ne sont pas toujours les mêmes entre ces forêts, mais elles sont toutes dans des états d'urgence.
Alors nous allons détailler cela. Chani, quelle est la situation à Bornéo et à Sumatra depuis que vous êtes installé là-bas, ça fait à peu près 25 ans
26 ans.
26 ans.
26 ans. Alors quand je suis arrivé, c'était le bois. Ensuite, la fièvre de l'huile de palme s'est emparée de Bornéo et Sumatra. Aujourd'hui, là où je vis, ce qu'on observe, c'est que les poches de forêt qui ont été épargnées par l'industrie de l'huile de palme sont attaquées par l'industrie du charbon, qui prend une vitesse assez folle par rapport à ce qu'on avait précédemment.
Alors, pas en coupant les arbres pour faire du charbon, mais
exactement,
en creusant pour aller chercher le charbon sous terre.
Voilà, le minerai. Je vous donne une image devant chez moi, sur le fleuve. Toutes les 5 minutes, il y a une barge de charbon qui passe avec des centaines de milliers de tonnes de charbon dessus. Et ces zones, quand on voit du ciel, eh bien, ce sont des nouvelles mines dans les poches de forêt qui ont été épargnées par l'huile de palme. Ça ne veut pas dire que l'huile de palme s'est arrêtée. Il y a toujours de la déforestation pour le palmier à huile qui prend d'autres visages. Des personnes qui sont maintenant capables d'investir dans des fabriques d'huile de palme brute sans concession. Avant, il y avait toujours une concession pour une fabrique d'huile de palme brute. Aujourd'hui, elle est simplement construite et ils vont pousser les villageois à déforester, à faire du palmier à huile, là
oui,
où les compagnies n'ont pas le droit. Voilà, parce
que
les compagnies n'ont pas le droit d'avoir de nouvelles concessions. Donc, c'est le nouveau mode opératoire. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus lent, mais le résultat est le même.
Voilà, et vous protégez aujourd'hui plus de 2000 hectares et vous allez en protéger de plus en plus. Vous nous raconterez cela dans un instant. Thomas Couvreur, quelle est la situation dans les deux autres bassins de forêt tropicale? Je pense au bassin du Congo et à l'Amérique du Sud.
Donc la situation, elle est relativement pareille. La déforestation continue, la déforestation tropicale, de ce qu'on appelle les forêts primaires. Donc une forêt primaire, c'est quand même très dur à définir. Mais en gros, ça représente, on va dire, une forêt mature, qui est naturelle, et dont l'impact de l'homme n'est pas encore très fort. Donc on part de là, pas de déforestation, pas d'agriculture à large échelle, pas de plantation de palmiers à huile. En 2023, on a perdu 3,7 millions d'hectares, ce qui représente plus ou moins 5,1 millions de terrains de foot. et on perd plus ou moins 10 terrains de foot par seconde de ces forêts primaires. Et en fait, l'année dernière, les rapports qu'on nous donne, hein, notamment au niveau international, ils aiment bien jouer entre les mauvaises et les bonnes nouvelles. Hein. Mais je pense que Chiani nous a montré un bon exemple de comme quoi c'est très urgent. Et même si ces chiffres au niveau global sont de temps en temps de bonnes nouvelles, par exemple, on a beaucoup parlé dans la presse de la baisse de la déforestation de près de 50% au Brésil. Donc tout le monde criait aux victoires. Alors que, en fait, la réalité, elle est autre. La déforestation a repris en 2024 et un autre biome a été complètement déforesté, le Cerrado. C'est à en croire que, en fait, dès que la presse ou le grand public se focalise sur quelque chose, ça va mieux. Mais de façon assez mesquine, hop, on va tout de suite aller déforester là où les gens ne s'attendent pas ou ne regardent pas. La Colombie, c'est pareil, une diminution de 36%. Et en RDC, en République démocratique du Congo, malheureusement, la déforestation, l'année dernière, était de 5 millions d'hectares, ce qui est très peu comparé, on va dire, relativement au Brésil. Mais cette déforestation est lente et continue à augmenter petit à petit chaque année. Donc, il n'y a pas eu vraiment de baisse.
Et alors, il y a quand même des phénomènes qui sont intéressants, en tout cas importants à partager avec nos auditeurs. C'est que désormais, l'Amazonie stocke moins de carbone que les forêts du bassin du Congo. Expliquez-nous cela.
Oui, alors ça c'est une grande étude mondiale qui se fait vraiment, c'est l'époque du big data, donc on a énormément de données. Les botanistes et ceux qui s'intéressent à l'évolution des forêts sur le court terme, ils font des carrés écologiques où tous les arbres sont mesurés, tous les arbres sont identifiés, le diamètre est aussi mesuré, et on refait ça tous les 5 ans, plusieurs fois durant les décennies. Et grâce à ça, on arrive à voir si les forêts, en fait, elles accumulent plus de carbone ou au contraire, elles en perdent. Et l'équation, elle est simple. S'il y a plus d'arbres qui meurent, que d'arbres qui sont recrutés ou que d'arbres qui grandissent, et ben au final on perd beaucoup de carbone. Et ces études ont montré qu'en Amazonie, et ben l'Amazonie n'était plus en train de stocker le carbone comme il le faisait avant, alors que dans le bassin du Congo, ce stockage de carbone restait encore positif.
Oui, donc on comprend bien que l'état de ces forêts est vraiment primordial pour nous tous, nous y reviendrons. Quelles sont les principales causes de la déforestation, Chiani? Vous disiez l'exploitation minière, l'exploitation forestière, l'huile de palme.
Avant tout, l'huile de palme, l'impact la plus importante qu'on peut voir aujourd'hui, c'est les monocultures, huile de palme et arbre la pâte à papier.
Cette huile de palme, il faut le rappeler, que l'on retrouve partout.
Qu'on le retrouve partout, mais maintenant, plus de 50% du marché, c'est les biocarburants. Donc, il faut se poser aussi des questions. Les moteurs à explosion sont quand même voués à disparaître à plus ou moins long terme. Donc, toute cette huile de palme qu'on a, qui sont aujourd'hui utilisées dans ces moteurs, ça va forcément avoir un impact sur le marché de l'huile de palme. Donc, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que tout le monde va vers l'huile de palme aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, pour les gens qui vivent à Bornéo, notamment, parce qu'il y a une grande tendance de remplacer toutes les plantations qui n'étaient pas des monocultures d'arbres à EVA, d'arbres à caoutchouc, qui étaient mélangés à la forêt. Aujourd'hui, tout ça est coupé pour faire du palmier à huile, sous le prétexte que l'EVA est moins cher, mais quelle garantie on a que le prix va rester le même pour le palmier à huile ou l'huile de palme dans les 10 prochaines années, par exemple. Donc c'est un souci. Et pour les bonnes nouvelles, je reviens sur les bonnes nouvelles de la déforestation, parce qu'il y a souvent des effets d'annonce, notamment en Indonésie, moins de déforestation cette année. Il faut aussi voir qu'à Bornéo, ils ont fait le job, malheureusement. Toutes les zones qui les intéressaient en priorité pour l'industrie de l'huile de palme, ils ont déjà déforesté. Donc évidemment qu'on a un taux de déforestation bien moindre que les années précédentes.
Parce qu'il y a moins de forêts exploitées.
Exactement, parce qu'ils font du palmier à huile que dans les zones de plaine, c'est ce qui les intéresse, et a priori là où il n'y a pas de tourbe, donc ça devient rare aujourd'hui à Bornéo.
Thomas Couvreur, les principales causes de la déforestation, est-ce que ce sont les mêmes sur le continent africain et en Amérique du Sud par rapport à ce que Chiani vient d'évoquer ?
Oui, les causes seront toujours les mêmes un peu partout, mais à des niveaux un peu différents. Par exemple, dans le bassin du Congo, ça sera principalement l'exploitation sur Chablis. Donc on va faire des petites cultures, on va brûler un petit peu, puis on va avancer. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est corrélé avec l'industrie de masse. Donc bien sûr, si on a une grosse industrie minier, forestier, on va faire venir plus de monde. Et ce plus de monde va vouloir subsister, va vouloir faire ses cultures. Donc en fait, ça va entraîner cette déforestation qui est liée à une culture sur Chablis qui était... qui est un peu peint comme une culture un peu traditionnelle, mais à cause de l'explosion démographique dans ces régions et la concentration de grandes populations autour des grandes industries, bah, bien sûr, ça va augmenter de façon assez localisée. D'autres menaces sont bien sûr tout ce qui est minier. Il y a de plus en plus de concessions qui vont être données pour des exploitations de mines, notamment liées à la place que prennent les piles et les batteries dans notre vie.
Et finalement, oui, avec la transition écologique et la recherche de métaux rares. Hein.
Voilà, exactement. Donc tout ça, ça a des impacts négatifs pour la déforestation. Un peu comme dit Chanet, on n'est jamais vraiment sorti de l'auberge parce qu'on va peindre quelque chose comme du biodiesel. Ben, en fait, ça fait de la déforestation. On va dire, ben non, les voitures électriques, ça fait aussi de la déforestation. Donc c'est vraiment une thématique extrêmement complexe. Et un autre impact qui est très important, c'est bien sûr le changement climatique. Là, on a vu par exemple des états de sécheresse extrêmement importants en Indonésie, mais aussi en Amazonie. Tout ça, ça a des impacts très négatifs. Les feux de forêt sont liés à ces périodes de sécheresse extrême.
Et en Amérique du Sud, son même constat ?
Oui, en Amérique du Sud, je le disais avec l'Amazonie, c'est le même constat, c'est l'exploitation forestière. Un autre aspect, c'est aussi la construction de routes, hein, c'est l'infrastructure. Des études récentes ont montré clairement le lien entre la construction de routes. Bon, ça, on le savait, mais là, on a réussi vraiment à le montrer avec les images satellitaires et des observations, qu'il y a vraiment un effet très négatif quand on construit des routes là où on ne devrait pas aller. Ben, ça crée des problèmes, mais ça aussi, c'est tout est lié à l'aspect un peu développemental des pays qui veulent en fait que certaines régions soient connectées.
Alors à l'écoute de ce constat, chers auditeurs, vous pensez peut-être que c'est triste, mais que cela ne vous concerne pas. Eh bien, restez avec nous, car la destruction des forêts tropicales nous concerne tous. Elle impacte nos conditions de vie. Comment ? Eh bien, nous vous expliquerons cela avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, place aux Jamaïcains Toots and the Metals et à leur titre Monkey Man sur RFI. Un titre choisi par François Porcheron, sûrement pour vous, Chani, qui défendait les gibbons en Indonésie depuis votre adolescence. Donc Monkey Man des Jamaïcains, Toots and the Metals dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Keep
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons des forêts tropicales aujourd'hui dans C'est pas du vent avec Shani, donc, qui se bat pour leur préservation depuis 26 ans en Indonésie, à Bornéo et à Sumatra, et avec Thomas Couvreur, botaniste, spécialiste de la dynamique de ces forêts à l'IRD, qui est en duplex avec nous depuis Montpellier grâce aux équipes techniques de France Bleu Hérault. Alors Shani, quel est le moteur de votre combat? Que l'on comprenne bien pourquoi c'est... forêt tropicale nous concerne tous. Qu'est-ce qui vous motive depuis toutes ces années pour affronter les lobbies de l'huile de palme, les autorités indonésiennes, parfois même au péril de votre vie?
Alors évidemment, il y a le côté biodiversité avec ces forêts qui abritent à Bornéo. On va parler des orang-outans, on va parler de tous ces animaux-là. Mais ce qui est choquant et ce qui frappe déjà quand on est sur place, c'est la qualité de vie des gens qui vivent d'abord là-bas, au plus près de ces forêts. On voit très bien les villages qui vivent dans les compagnies d'huile de palme, où les eaux sont souillées, où ça devient très compliqué. Il y a des villages aujourd'hui à Bornéo où il y a des camions citernes viennent tous les matins livrer l'eau aux gens parce qu'il n'y a plus de ressources en eau potable dans ces zones-là, parce qu'il y a du palmier à huile. Donc ça, dans un premier temps, pour les gens autour. Et c'est pour ça que mon combat à l'échelle locale, on parle de communes, on parle de zones bien spécifiques à Bornéo, reçoit autant de soutien des populations locales parce qu'elles ont très bien compris, elles ont déjà une expérience de l'huile de palme et de la déforestation, à quel point c'est important. On est au mois de juin, cette année, rien que cette année, les villages aux alentours de la zone où j'habite ont été inondés 4 fois. À cause du changement climatique combiné à la déforestation, les
eaux
sont plus retenues.
Alors pourquoi la déforestation crée des inondations ?
Ben, les eaux ne sont plus retenues, la forêt ne joue plus son rôle d'éponge, donc on a un fleuve qui, au lieu de varier un petit peu toute l'année, aujourd'hui, il suffit d'une semaine sans pluie pour avoir un niveau du fleuve très très bas, et dès qu'il y a des gros orages, eh bien le fleuve déborde et sort de son lit et inonde tous les villages aux alentours qui sont là depuis la nuit des temps et qui n'ont jamais vu ça, et donc c'est d'abord avant tout les populations locales là-bas qui sont victimes de cela. Et puis les forêts, c'est évidemment un régulateur du climat et qui nous affecte sur la planète entière.
Et le fait que les forêts soient un refuge pour les animaux, c'était votre point d'entrée ?
C'était mon point d'entrée. Et c'est vrai que...
C'est quand même important aussi. C'est vraiment un refuge extraordinaire pour la biodiversité.
Voilà, et on est en train de tout perdre. Donc il faut vraiment être vraiment pragmatique et tout faire pour sauver ce qu'on peut, pour sauver tous ces animaux, avoir des poches de forêt assez grandes pour avoir des populations viables à l'intérieur. Mais encore une fois, une forêt saine et vivante, c'est une forêt aussi avec des gens à l'intérieur. Et les peuples Dayak de Bornéo sont mes premiers alliés pour justement remporter des victoires, sauver la forêt, sauver ces animaux et sauver leur futur.
Alors nous parlerons stratégie tout à l'heure, mais Thomas Couvreur, pourquoi l'état des forêts tropicales nous concerne tous ?
Donc les forêts, en fait, comme dit Chanet, ont un rôle extrêmement important localement, ça on le sait. Bornéo, c'est l'exemple typique où la déforestation a été telle que maintenant on arrive à observer, grâce aux données climatologiques, depuis les décennies, des changements qui sont corrélés à cette déforestation. Mais après, au niveau global, les forêts jouent aussi un rôle, et ce rôle va impacter toutes les personnes et nos vies en général. Alors, les forêts sont généralement peintes comme des poumons de la biodiversité, les poumons de la Terre, parce que, bien sûr, une plante va capturer le CO2 et rejeter de l'oxygène. Mais en fait, ce rôle, il est pas aussi important dans les forêts que, par exemple, dans les océans. Les océans jouent un rôle beaucoup plus important dans la circulation de l'oxygène. Par contre, les forêts tropicales humides vont avoir un rôle extrêmement important dans la circulation des précipitations, localement, mais aussi globalement. Une étude récente a montré, alors ils se sont amusés, entre guillemets, avec des modèles, bien sûr, si on enlevait toute la forêt tropicale amazonienne, si on enlevait toute la forêt du bassin du Congo ou en Asie du Sud-Est, quelles seraient les répercussions climatiques ? Par exemple, si le bassin du Congo amenait à être complètement déforesté, on verrait par exemple un impact climatique, une sécheresse en Europe de l'Est, dans la région méditerranéenne. On verrait, donc ça c'est des sécheresses, on verrait une augmentation des pluies, plus que d'habitude, sur l'Est des États-Unis, mais aussi par exemple une sécheresse dans le Midwest américain, sachant que le Midwest américain, c'est aussi l'endroit où il y a une grande production d'agriculture pour ce pays.
Alors c'est un petit peu difficile à comprendre, parce qu'on se dit finalement, les forêts en République démocratique du Congo, comment sont-elles connectées à l'Est américain ?
Elles sont connectées par toute une façon spécifique avec le changement du climat mondial. Donc s'il y a peu de pluie dans le bassin du Congo, ça aura un impact. C'est l'effet, c'est un, ce qu'on appelle l'effet papillon, où en fait un changement quelque part va avoir des répercussions tout au long d'une chaîne qui va par exemple se terminer dans l'Ouest américain. Tout ce qu'il faut, ce qui est important à comprendre, c'est que le climat mondial est connecté à plusieurs phases. L'orogénie, par exemple, une montagne va avoir un impact aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et les forêts tropicales notamment jouent un rôle en termes de précipitation et de régulateur du précipitation mondiale.
Et pour autant, il semble difficile de tenir un discours pour limiter la déforestation dans les pays du Sud, Chani, parce que par exemple en Europe, nous avons tout saccagé. Alors certains qualifient cette approche de colonialisme vert. Qu'en pensez-vous ?
Ah, c'est l'argument qui revient à chaque fois, surtout quand... Mais moi, je dirais que je ne me sens pas concerné par ce genre de critique, ou... parce que mes premiers alliés, encore une fois, là-bas, sont les gens. Ce n'est pas les gibbons, les orang-outans qui sont derrière moi. Et si je n'avais pas eu le soutien de tous ces Indonésiens et tous ces Dayaks à Bornéo depuis tant d'années pour mener ce combat, je ne serais certainement plus là en Indonésie, parce que les pressions, elles existent, que ce soit des autorités, que ce soit des grands groupes. Donc avant tout, préserver la nature et préserver la forêt, encore une fois, je n'apporte pas la bonne leçon ou la parole de l'occidental en Indonésie. J'essaie de porter un combat qu'on mène ensemble avec les populations locales pour leur futur aussi aux populations locales. Et c'est pour ça qu'on est très bien accueillis. Encore une fois, s'il y a 1,4 million de personnes qui nous suivent sur nos vidéos YouTube en Indonésie, c'est parce que c'est un combat qui les touche. Donc je ne me sens pas concerné par ce genre de critique.
Thomas Couvreur, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est tout à fait correct. On travaille avec les populations qui vivent et dépendent de cette forêt. Mais j'irai un petit peu plus loin avec deux points qui valent ce qu'ils valent. Tout d'abord, on ne parle pas de la même biodiversité, on ne parle pas du même rôle, si on peut dire. La forêt tropicale humide, comme on le dit, c'est une biodiversité incroyable. Il y a autant, voire beaucoup plus d'espèces d'arbres dans un hectare de forêt en Amazonie que dans toute la France. Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait maintenant, c'est des valeurs qu'on a mesurées. Et donc la forêt tropicale humide n'est pas équivalente à une forêt en termes de biodiversité dans le Nord. Et l'autre chose que je dirais, c'est que maintenant on sait. Avant, on peut dire, on était ignorant, on ne savait pas. Et maintenant on sait, on a des études scientifiques qui le montrent. On sait que ça va arriver, on sait que ça va changer le climat, on sait que ça aura un impact spécialement négatif pour les populations qui vivent dans ces régions-là, mais aussi pour les autres personnes. Donc on ne peut pas dire « Ah, on ne savait pas, donc on a tout saccagé ». Maintenant, on le sait et il faudra rendre compte de ces actes dans le futur.
Donc tout est dans la stratégie, en fait. Comment s'y prendre pour préserver les forêts tropicales en accord avec les populations locales, hein, c'est ce que vous dites tous les deux. Alors vous allez nous expliquer justement votre stratégie dans un instant, mais faisons d'abord un petit tour au Nigeria en musique avec Afrobeach et Youngblood et leur titre Bololo dans C'est pas du vent, évidemment.
Sweet in the middle, in the center
Solo par les Nigérians Afrobeach et Youngblood, un titre que vous pouvez retrouver parmi d'autres sur la playlist de RFI disponible sur vos plateformes préférées.
RFI.
Détruire une espèce, c'est bien pire que de brûler tous les Picasso. C'est vraiment faire disparaître un bijou qui a été façonné par le temps.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Nous parlons des forêts tropicales aujourd'hui dans C'est pas du vent avec Chani qui se bat pour leur préservation avec son ONG Kalawet depuis près de 30 ans en Indonésie, à Bornéo et à Sumatra, et avec Thomas Couvreur, botaniste spécialiste de la dynamique de ces forêts à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour protéger durablement les forêts tropicales? Eh bien, cela passe par un dialogue avec les populations locales. C'est la stratégie qu'a mis en place Jean-Christophe Bokika en République démocratique du Congo. Il a créé et il préside l'ONG Mbumontour. C'est à 300 km au nord de Kinshasa.
En 97, les populations locales, à la suite du phénomène de déforestation et de la raréfaction de certaines ressources animales, les populations ont décidé de créer une association pour faire face à ces fléaux, pour réduire la pression sur la forêt, sur la faune sauvage. Il y avait des armes automatiques. Les militaires venaient de Kinshasa pour chasser le gibier. Et des fois, ils ont tué, pouvaient tuer même une vingtaine de singes et d'antilopes. Et même au niveau de la pêche, les gens utilisaient du poison pour avoir beaucoup de poissons, mais la conséquence est qu'on sacrifiait carrément les alevins. Et c'est pour cela que nous sommes intervenus pour trouver des alternatives à ce genre de pratiques.
Et alors, comment est-ce que vous avez commencé à travailler avec les populations? Parce que c'est ça votre approche, hein, c'est de faire de la protection en écoutant les besoins et les envies des populations locales.
C'est une initiative des populations locales elles-mêmes. On a débattu de certaines questions et on a dit qu'il faut désormais protéger la forêt, la faune. Et c'est ainsi que nous avons eu l'idée de créer une ferme agro-pastorale pilote où nous allons élever la volaille, le bétail. On a commencé par l'élevage des vaches parce que à l'époque, il fallait quand même trouver une alternative à la chasse aux buffles. Dans la zone, est considéré comme chasseur celui qui a abattu au moins un buffle. Et donc nous nous sommes dit, il faut quand même élever, commencer par les vaches, qui est pratiquement l'équivalent de buffle.
Du coup, la chasse a baissé?
La chasse a baissé. Et en 2001, nous avons été alertés par une information préoccupante, le braconnage des bonobos. Le bonobo, dans notre zone, est considéré comme un humain. La légende dit qu'il a habité avec les hommes, mais parce qu'il n'arrivait pas à honorer sa dette, c'est là qu'il a préféré se réfugier dans la forêt pour ne pas devenir l'esclave de son créancier. Et depuis lors, nous, quand on grandissait, on nous disait toujours, il y a un cousin en forêt, il ne faut pas le considérer comme un gibier, on le considère comme tel. À tel point que les gens sont tolérants à l'égard des bonobos. Même les ravages qu'ils causent aux plantations, parce que le bonobo raffole des bananes, des cannes à sucre, ainsi de suite. Mais ça se comprend, on s'est dit, mais c'est un cousin qui était dans le besoin et on ne les chasse pas pour autant. Mais dans la zone, il y a les sociétés d'élevage et d'exploitation forestière qui, au départ, utilisaient la main-d'œuvre locale. Mais à la suite de la modicité des salaires, la main-d'œuvre locale s'est désengagée. C'est alors que ces sociétés ont fait recours aux gens du nord et du sud de notre zone. Ceux qui sont venus n'ont pas nécessairement le même tabou traditionnel, n'ont pas la même culture que nous. Ils ont commencé à abattre les bonobos. Et c'est alors qu'ils ont même intéressé les jeunes gens pour qu'ils se livrent à l'achat des bonobos et qu'on leur vende la viande. Mais les jeunes gens le faisaient en cachette parce que ils savent que c'est interdit par la coutume. Mais lorsque l'un d'eux a vendu la mèche, nous avons réuni les chefs coutumiers pour leur dire, est-ce que vous savez ce qui se passe dans vos forêts? Voilà, il y a ça. Évidemment, ils étaient très écœurés. Mais ensemble, on a construit un discours. On a dit, il va falloir qu'on fasse la sensibilisation. Mais comme nous n'avions pas assez de moyens, nous n'avions que notre petite ferme là, nous avons décidé de créer un groupe folklorique que nous avons dénommé Bonobo Folk. Et nous avons dit, à travers les chansons de ce groupe folklorique, les gens prendront conscience parce que les chansons sont vite intériorisées. Et ça marchait. On a commencé à vanter les mérites des bonobos, ainsi que vous avez même suivi, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a même une chanson là. Bonobo vivait au village, bonobo. À l'époque, nous avons été approchés par les organes de conservation pour y ériger un parc. Nous avons refusé cette approche-là. Pour nous, les bonobos devraient être protégés de la même manière qu'ils l'ont toujours été depuis des temps immémoriaux. C'est-à-dire, les bonobos vivent à côté des hommes. Il est question maintenant d'organiser le zonage participatif et de faire en sorte qu'il y ait une zone réservée aux bonobos et une autre réservée aux activités des hommes.
Nous aimons vous présenter des exemples inspirants dans C'est pas du vent et je pense que l'ONG Boumontour en est un. Chani, vous connaissez Jean-Christophe Bokika, vous êtes allé le voir en République démocratique du Congo.
Oui, j'ai trouvé génial le projet et l'approche justement d'avoir une forêt protégée, les bonobos à l'intérieur par les communautés locales sur place. Il n'y a rien à ajouter, c'est juste le scénario idéal dans une situation qui est difficile parce qu'il y a plein d'enjeux, plein de difficultés justement tout autour en termes d'environnement et Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué aussi. Et j'ai beaucoup d'admiration pour son projet. Pour
voilà, aller voir sur les réseaux ce qu'il fait à 300 km au nord de Kinshasa. C'est vrai que c'est admirable, mais c'est aussi un peu votre stratégie, Chani, finalement. Vous nous le dites depuis le début de l'émission. Vous travaillez avec les populations locales parce qu'en fait, c'est une course. Hein. Vous gérez déjà plus de 2000 hectares de forêt entre Bornéo et Sumatra, mais c'est une course. L'idée, c'est qu'il faut acheter les terres auprès des populations locales avant que les industriels de l'huile de palme ou les autres compagnies minières le fassent.
Voilà, localement, il n'y a pas une solution. Il y a plein de solutions. L'idée, c'est comment on peut avoir la légitimité d'arriver à sauver des terres. Alors, le foncier, ça peut être une des solutions. Mais le meilleur moyen, la meilleure stratégie, c'est d'étudier la stratégie de nos ennemis. Comment un privé peut avoir la légitimité de créer une plantation de 500 hectares de palmiers, par exemple. Donc, on va parler de foncier, on va utiliser exactement les mêmes outils pour arriver à sécuriser les terres avant que les compagnies achètent ces terres pour faire des palmiers ou des mines. À la différence que nous, quand on a sécurisé une poche de forêt, aujourd'hui, on la rend au village, ça devient une forêt communale protégée et dont on a la gestion avec les populations locales. Et comme les Dayaks de Bornéo, donc les Dayaks, c'est le nom générique pour tous les peuples de Bornéo, sont très attachés à leur forêt. Quand on leur donne une alternative, au lieu de vendre à une compagnie et de recevoir la même somme d'argent. Ils gardent l'usufruit, évidemment, de la forêt. Ça devient une forêt communale, mais ils ont toujours le droit d'aller dans cette forêt, une forêt vivante, avec des gens à l'intérieur, évidemment. Mais tout le monde est d'accord pour ne pas couper et pour ne pas chasser à l'intérieur de ces zones-là. Eh bien, tout le monde est gagnant. Nous avons une longue liste de certificats de propriété qui nous sont proposés pour que Calaouet travaille avec ces gens pour sécuriser plus de forêts. Donc, il faut être... La clé, c'est le pragmatisme. Face à l'urgence, on a besoin de stratégies avec des effets immédiats. Et avec le foncier, c'est ce qui se passe.
Ça coûte combien un hectare de forêt ?
À peu près 1 000 euros. Mmh. À peu près 1 000 euros. Alors, on ne va pas parler de forêt, on va parler de terrain. Parce que dans le cadastre, tout ça, dans la législation indonésienne, c'est aussi important de bien choisir ses mots. Mais oui, on va acheter à peu près pour un hectare pour 1 000 euros. Et comme ça, arriver, encore une fois, on est dans un contexte, on ne parle pas d'une grande forêt, il faut bien s'imaginer des poches de forêt, 2000 hectares, 3000 hectares, cernés par l'industrie du palmier, du charbon. Donc tous les animaux ont trouvé refuge dans ces poches de forêt, et si ces poches de forêt disparaissent, bien, tous les animaux disparaissent.
Oui, donc, parce que ces poches, pas trop éloignées les unes des autres, enfin, tant qu'elles ne restent pas trop éloignées, ça fait des corridors.
Ça sera la seconde étape, ça. Pour le moment, on est vraiment dans l'urgence de sauver tout ce qu'on peut. Ensuite, il faudra connecter toutes ces zones-là, mais dans l'urgence, ça vous donne une idée un peu de la situation sur place. On est vraiment dans une urgence ultime où il faut vraiment essayer de sauver tout ce qu'on peut, toutes ces poches de forêt. Et quand ce sera fait, oui, on pensera à évidemment faire des corridors, tout connecter. Mais là, on est dans l'urgence.
Et comment réagissent les compagnies minières ou l'État indonésien à vos démarches ?
Alors, l'État indonésien, il va y avoir plusieurs strates. Nous, par exemple, localement, dans la province, dans le district où on travaille, puisqu'on a une certaine notoriété en Indonésie, ils sont plutôt contents de nous avoir. Et comme ils savent qu'on travaille avec les populations locales, les compagnies alentours sont timides. Elles savent qu'on peut très bien, avec une simple vidéo, avec tous les réseaux qu'on a en Indonésie, et on peut très vite faire parler de nous. Si, par exemple, ils vont couper une forêt avec des orang-outans à l'intérieur, alors qu'il reste très peu de forêt. Donc, curieusement, localement, on a très peu de conflits. Parce qu'aussi, quand on crée ces réserves, justement, avec les populations locales, personne n'a été lésé dans le processus. Donc, ils savent que si jamais ils s'attaquent à l'ONG, à Kalawet, derrière nous, on a tous ces gens. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, des centaines de personnes qui descendent pour venir nous soutenir lorsqu'on a eu un conflit, par exemple. Donc, ça sera toujours délicat. Si vous faites de la conservation active, vous aurez forcément des ennemis. Si vous n'avez aucun ennemi, ça veut dire que vous ne faites pas grand-chose. Par contre, si vos ennemis, ce sont les populations locales, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et donc, les compagnies minières ou les compagnies d'huile de palme, pendant longtemps, vous ont posé des problèmes. Hein. Vous avez eu des menaces certaines. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est moins le cas ?
C'est toujours le cas, mais pas localement. C'est-à-dire que je vais être plus en danger, entre guillemets, à Jakarta. Loin de mes équipes, j'ai ma petite part armée avec moi, j'ai tous mes gars avec moi et les villageois qui me soutiennent localement. Mais c'est vrai que globalement, évidemment, que par rapport au message qu'on peut diffuser en Indonésie, eh bien on gêne, mais c'est le prix à payer.
Thomas Couvreur, vous êtes un scientifique engagé puisque vous accompagnez une ONG, hein, l'ONG équatorienne Greatleaf, dans la région du Choco, qui englobe le nord-ouest de l'Équateur et le sud-ouest de la Colombie. C'est l'une des zones les plus importantes, hein, pour la conservation au monde en raison de sa grande diversité biologique et des fortes pressions qu'elle subit. Et votre stratégie consiste aussi à contrôler le foncier.
Oui, alors bien sûr, moi j'ai beaucoup moins d'expérience dans le domaine que Chani, et tout ce que dit Chani résonne très fort avec notre combat dans le Choco. Le Choco, c'est le grand oublié de l'Amérique du Sud. On parle beaucoup d'Amazonie, on parle beaucoup de Mata Atlantica, c'est cette bande de forêt au Brésil, sur la côte atlantique. Et le Choco, on en parle beaucoup moins, alors que c'est un des points chauds de la biodiversité, un des plus grands points chauds de la biodiversité en Amérique du Sud. Et là, bien sûr, en Équateur, par exemple, entre 80 et 90% de la superficie des forêts tropicales humides de terres relativement basses, hein, donc en dessous de 500 mètres d'altitude, ont été rasées. Et exactement de la même manière que dit Chani, c'est des petits îlots de forêt qui disparaissent sur 1, 2, 3 ans. Et c'est une course, hein, exactement ce qu'il disait. Le premier qui achète, ben, c'est lui qui fera ce qu'il voudra avec cette forêt. La plupart du temps, quand ça tombe dans les mauvaises mains, c'est « je vais tout raser ». Et nous, c'est pas de l'huile de palme, même s'il y en a, c'est la culture de bananes de façon intensive, mais aussi des pâturages pour la viande et le lait. On va défricher des hectares de forêt pour mettre 4-5 vaches dessus pour l'élevage. Donc moi, je suis scientifique. Durant la plupart de ma carrière jusqu'à maintenant, ça a été de façon assez scientifique que j'aborde le projet. J'essaye de générer des données pour qu'on puisse utiliser dans la conservation la plupart du temps. Mais là, plus récemment, lors de ma mission de plusieurs années en Équateur, j'ai adhéré à une ONG qu'on appelle Greatleaf, qui est menée par une collègue à moi, Andrea Narvaez, qui mène en fait des actions de conservation dans la région et avec qui on s'est allié avec un personnage local que moi je qualifie toujours de héros de la conservation. C'est quelqu'un qui vit dans cette région qu'on appelle Manabi, où avant il y avait beaucoup de forêts là-bas. Maintenant, il ne reste plus que quelques îlots, quelques petites poches. Et lui, contre le courant de toute sa communauté, il n'a pas voulu défricher une des forêts qu'il a achetées. Elle était toute petite, 7 hectares, hein, c'est assez petit, mais il l'a protégée contre l'avis de tout le monde. Des gens lui disaient, bah, écoute, on va déforester la forêt pour toi, puis on va te donner 20-50% de ce qu'on gagne. Et lui, il a toujours dit non. Alors, c'est bien sûr des gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, et il a vraiment mis ça avant lui-même,
son confort
personnel, sa famille. Et donc, c'est vraiment ce genre de personne qu'il faut un peu partout pour continuer à protéger cette forêt.
Oui, comme des chenilles, il en faudrait dans toutes les forêts tropicales du monde. Et donc, vous avez, avec votre ONG, protégé jusque-là 65 hectares et vous avez l'intention d'en protéger davantage.
Alors, l'histoire a commencé en 2018 lorsque j'ai rencontré Greatleaf et on a commencé à collaborer avec Anelio. Anelio avait 7 hectares, on a réussi à trouver un petit peu de financement. Donc nous, on est beaucoup plus jeunes, hein, on n'a pas autant d'impact qu'Kalawet en Indonésie. Et on a commencé commencer par le début, d'abord parler avec les populations, leur dire voilà, il faut conserver la forêt. Donc on a mis en place par exemple des études au niveau anthropologique, comment est-ce que les gens voient la forêt. Ce qu'il faut savoir dans cette région, c'est qu'à l'inverse de par exemple ce que nous disait Shani en Indonésie, ici c'est plutôt des gens qui sont arrivés dans les années 60. Donc il n'y a plus vraiment de population autochtone, c'est des gens qui sont arrivés par immigration, et donc c'est un autre contexte où en fait on ne savait pas trop qu'est-ce que la forêt représente pour ces gens-là. Donc ça, c'est déjà important. Il faut savoir, est-ce que c'est des choses qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils connaissent pas. Donc déjà, nous, on est vraiment à ce niveau de base. Ensuite, on a commencé à trouver des fonds. Donc nous aussi, dans ces forêts, on protège une espèce de singe, parce que bien sûr, nous, on vise à essayer de protéger la forêt dans son ensemble, mais il y a des superstars dans ces forêts. Et nous, c'est le singe hurleur, une sous-espèce de singe hurleur qui est endémique de la région du Choco et qui est menacée par la déforestation, qui est menacée d'extinction. Et donc avec ça, on arrive plus facilement à attirer de l'argent. Donc on a réussi à trouver quelques fonds pour acheter 7 hectares en plus. Donc la forêt maintenant de Aneliolor, elle fait 14 hectares, qui est gérée par Great Leaf avec bien sûr les populations locales. Et plus récemment, grâce à une autre ONG française, Green Sanctuaries, on a réussi à chercher un petit peu plus d'argent et acheter 65 hectares de forêt à 10 km de là, avec l'objectif bien sûr d'essayer de les relier pour que les forêts restent saines et ces populations qui restent isolées dans ces petites poches de forêt puissent continuer à survivre, pas seulement d'ici 4-5 ans, mais sur le long terme. Hein, on essaye d'avoir des projets sur 100 ans. C'est ce que j'essaye de dire à Anelio. Où est-ce que tu vois ça dans 100 ans? Toi et moi, on ne sera plus là. Mais est-ce que tous les efforts qu'on fait, est-ce que dans 100 ans, ça sera encore là? Dans 200 ans, ça sera encore là? Et donc ça, c'est vraiment l'objectif. On essaye d'avoir quelque chose de multigénérationnel et ça passera forcément par des ONG et aussi le passage de leadership entre les ONG. Donc ça, c'est quelque chose auquel on devra réfléchir à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut continuer la protection de ces forêts sur le long terme, pas seulement sur notre vie?
Shani, vous vous posez aussi ces questions du long terme?
Évidemment, et il faut bien avoir quelque chose dans la tête quand on travaille en conservation, c'est que toutes les victoires sont provisoires. C'est qu'il ne faut jamais baisser la garde. On ne peut pas se dire, oh, ça va, on a acheté, c'est protégé. Non, les dynamiques changent, qu'elles soient économiques, climatiques maintenant. Donc voilà, les victoires sont provisoires. Par contre, les échecs, eux, sont permanents. Parce que quand on perd la forêt primaire, on la perd, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut tout mettre en œuvre, jamais baisser la garde, faire en sorte que ça perdure le plus longtemps possible, sans trop se poser de questions. Mais la clé, c'est évidemment l'engagement sur le très long terme.
Et d'ailleurs, vous êtes en France car vous avez besoin de fonds pour étendre à nouveau votre action.
Oui, il y a la réserve d'Oulane qui fait actuellement 1307 hectares exactement, avec une centaine d'orang-outans à l'intérieur. On est arrivé à faire en sorte qu'une coopérative de palmiers à huile au sud se mette un peu en stand-by, mais il nous faut trouver les sous cette année pour pas que la forêt soit convertie. Il y a environ 700 hectares à sécuriser, donc c'est une priorité. Ça ferait en sorte que la forêt soit assez grande pour que tous les grands mammifères puissent vivre à l'intérieur sans que ça, forcément elle soit connectée à une autre forêt. Donc c'est super important, c'est du concret, c'est pragmatique et le visage de la conservation, ça doit être ça, agir concrètement pour avoir des résultats immédiats.
Et Thomas Couvreur, là on parle de conservation de forêts tropicales, mais souvent lorsque l'on parle conservation des forêts, on entend soit mettre, alors on l'a bien compris, mettre les forêts sous cloche en dehors des populations locales, ce n'est pas une bonne stratégie, mais on parle aussi beaucoup de programmes de plantation. Et vous, vous dites attention, scientifiquement, il vaut mieux d'abord protéger les forêts primaires, ou en tout cas les plus anciennes, plutôt que planter.
Oui, bien sûr, il faut. Ça, c'est plutôt par rapport au programme de reforestation. Il y a beaucoup de buzz autour de ça. Un pays a planté un milliard ou un million d'arbres, c'est vu comme quelque chose de très positif. En effet, c'est positif, mais la reconstruction, la reforestation d'une forêt tropicale primaire est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y a des dynamiques extrêmement compliquées dans une forêt tropicale humide, entre les plantes, les bactéries, les champignons, les animaux qui vont disperser des graines, le climat, comme on l'a expliqué avant. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et se dire, bon, on peut déforester, puis après, simplement reforester, ça sera la même chose. C'est loin de la réalité. Et donc, il faut vraiment, comme disait Shani, on est urgence. Il faut protéger, que ce soit par le foncier ou par la collaboration avec les communautés.
On a bien compris, il faut acheter aussi, finalement, les villageois. Oui. Alors, voilà. vous disiez, c'est vrai qu'en même temps, un hectare de forêt tropicale, c'est, on l'a dit, une biodiversité incroyable, exceptionnelle. Mais une forêt tropicale, ça se construit sur un siècle, deux siècles, trois siècles, ça n'a rien à voir avec un champ d'arbres replanté en quelques décennies.
Ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses qui doivent être en jeu et qui doivent se remettre en route. Et on ne peut pas attendre 100 ans, 200 ans pour retrouver des forêts tropicales primaires, comme je l'ai défini au début.
Voilà, alors après, des programmes de plantation, Chani, ça peut complémentaire, ça peut-être, pas la priorité.
Moi, je ne veux pas en entendre parler actuellement à Bornéo. Il y a tellement à sauver que le gouvernement adore parler de plantation. Ça fait du chiffre, mais si vous voulez planter 1 million d'arbres, annulez une seule concession de palmiers à huile et vous saurez sauver bien plus d'un million d'arbres. Donc, il faut être réaliste et concret. Moi, je dis plus sauver les forêts, pas forcément forêts primaires. Que le terme est tellement galvaudé, les autorités vont avoir leur propre définition, etc. Donc, sauver les forêts. Nous, on a des forêts secondaires qui ont été dégradées, mais il y a toujours une canopée assez basse, mais on se rend compte que des animaux exploitent aussi ces forêts. Donc, aujourd'hui, dans le contexte indonésien, en tout cas à Bornéo, partout où il y a une forêt de plus ou moins bonne qualité, si on peut la sauver, il faut y aller.
Dans votre dernier livre, Hâte d'être à demain, pour continuer à sauver justement, publié aux éditions Les Presses du Midi, vous écrivez « Je n'ai pas peur de l'avenir à l'heure où l'éco-anxiété tétanise les jeunes générations ». C'est le message que vous voulez faire passer ?
Oui, parce que si on commence à être tétanisé par l'avenir et être pessimiste, on ne se donnera pas les moyens de sauver ce qu'on a à sauver. On n'aura pas l'énergie. Donc oui, moi je veux rester positif. Et vous savez, quand vous êtes dans l'action et que vous vous couchez le soir et que vous avez sauvé 40 hectares, ce mois-ci on va sauver 40 hectares à Bornéo, eh ben on a la force et l'envie de se réveiller le lendemain matin pour continuer encore 40, allez, aujourd'hui. Et c'est ça, c'est cette énergie-là positive quand on sauve qui peut faire la différence. Et il faudrait que bien plus de personnes sentent ce sentiment-là qui m'emplit, moi, et qui me fait continuer. Et parler de conservation, encore une fois, active, pragmatique. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous aurez ce sentiment-là. Et oui, on ne va pas se perdre du temps à être pessimiste.
Thomas Couvreur, vous partagez ce constat ?
Ah oui, complètement, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, du moment où j'ai commencé à la recherche, il me manquait en fait ce côté-là, vraiment actif. Et donc j'ai commencé un petit peu, j'essaye de mettre en contact les gens et de commencer à sauver ces forêts ou participer à cette sauvegarde de la biodiversité. Et c'est vrai que quand on arrive, là, on a réussi à acheter les 65 hectares, et ben voilà, on se sent bien et ça nous donne beaucoup de motivation pour continuer. Et je suis tout à fait d'accord, il faut être très optimiste et essayer de mettre le pessimisme de côté, mais tout aussi en se basant bien sûr sur la science. Et ce que je voudrais moi juste dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les forêts, notamment tout simplement la description des nouvelles espèces. Dans les forêts tropicales humides, on en décrit encore beaucoup ces temps-ci. Et quand moi je découvre des nouvelles espèces, la première question c'est il y a encore de nouvelles espèces à découvrir. Donc les forêts tropicales humides sont extrêmement importantes, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et encore moins sur toutes les bactéries, les champignons, et aussi, comme je disais, les interactions entre les différents organismes au sein de ces forêts restent complexes, et on a encore beaucoup de mal à comprendre comment tout ça, ça évolue et comment tout ça, ça va réagir aux changements qui sont à venir.
Et c'est une bonne nouvelle que les scientifiques s'engagent. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Pour en savoir plus sur l'activité de Chani, vous pouvez aller sur le site calaouette.org. Et de toute façon, tous les liens de ce dont nous avons parlé dans l'émission seront sur la page de C'est pas du vent sur RFI.fr. Merci aux équipes de France Bleu Hérault d'avoir permis que nous soyons en duplex avec vous, Thomas Couvreur depuis Montpellier. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Continuez à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est l'heure des infos sur RFI.